Bienvenue sur le podcast de Nat et Véro, le podcast qui vous révèle ce que pensent les hommes de la relation homme-femme.
Eh bien bonjour à tous, c'est le retour de Nat et Véro. Bon, c'est un épisode un peu spécial aujourd'hui, parce que pour deux raisons. La première, c'est que Véro n'est pas là, elle n'est pas autour de cette table ce soir. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu, mais elle est partie à San Francisco vivre et s'installer.
Sans nous.
Sans nous, exactement. Et elle s'éclate et elle va bien. Et c'est le premier épisode que je fais sans elle. Mais je ne pouvais pas faire un épisode sans une troisième personne. Donc j'ai décidé d'inviter aujourd'hui une Véro intérimaire qui s'appelle Julie.
Bonsoir.
Salut Julie. Salut.
Bonsoir.
C'est moi Julie.
Voilà, juste pour les présentations. Donc Julie sera ce soir sur l'épisode en essayant de remplacer un petit peu Véro.
Oui, enfin, je sais que c'est pas facile.
Véro
est irremplaçable. Je vais faire de mon mieux.
Les chaussures à remplir sont grandes.
Ah ouais, c'est impressionnant.
Véro est unique et elle a mis la barre très haute et elle reviendra dans les prochains épisodes et on va tout faire pour essayer de refaire des épisodes ensemble. Mais pour maintenir le podcast, on continue ce trio de choc et ce soir, on accueille Julien, 33 ans.
C'est moi.
Salut Julien, qui aujourd'hui nous a contactés en direct, il me semble. Par email
via un ami commun
qui s'appelle Kevin,
exactement,
qui n'est pas venu encore témoigner, qui nous avait dit qu'il voulait témoigner.
Oui, il le fera peut-être un jour, mais pas maintenant.
Peut-être après toi, il veut te laisser passer.
Il était très très intéressé par le fait que Julien, il voulait me coacher et tout, mais
c'est vrai.
Je lui ai fait non, tu le feras après si t'as envie.
Écoute-moi et puis tu verras. Donc Julien, 33 ans, vit à Bruxelles. Il est en week-end pour à Paris.
Mm-hmm.
Et tu es venu, tu arrives de Gare du Nord.
Exactement, à pied.
À pied, forcément, ah ouais. Merci les grèves.
Merci les grèves.
Et tu es venu direct dans le studio de Nat et Véro.
Ça c'est beau, c'est la première étape à Paris, c'est Nat et Véro.
Exactement.
Voilà. C'est pas les potes.
Nat et Juju, parce que je tiens à dire quand même que je suis...
Nat et Juju ce soir.
Voilà.
Voilà, et donc est-ce que tu peux, peut-être on va commencer par cette première question qu'on a décidé de mettre en place dans la saison 4, qui est nous présenter un objet qui te caractérise.
Oui, alors j'ai amené avec moi une copie de Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Alors j'aurais pu choisir d'autres objets, mais j'ai choisi celui-là. Pourquoi ? Parce qu'il incarne le personnage principal incarne pour moi une facette de la virilité qui me fascine. C'est l'éloquence dans une situation de risque, une situation de conflit. Et pour les auditeurs qui s'en rappellent plus, par exemple une des premières scènes, c'est le duel avec le vicomte de Valvert et qui a été merveilleusement incarné par Depardieu dans le film. Et on voit Cyrano justement dans cette scène dominé à la fois par le verbe et par la force, ce pauvre comte de Valvert qui est un duelliste émérite, mais qui ne peut rien faire face à au déluge de mots, aux images métaphoriques d'une beauté puissante, il peut rien faire. Et je trouve c'est ça dans le duel, mais c'est aussi ça quand il est face à Roxane. Même s'il peut pas lui déclamer son amour, il s'ouvre à elle quand même, alors que n'importe quel homme lambda gèle devant une personne dont il est amoureux, quoi. Et lui, non. Je trouve ça fascinant.
Génial. On a un amoureux en face de nous, un séducteur amoureux des mots, grand littéraire. Donc super, merci. D'ailleurs, ça me fait penser que je devrais le relire, ce livre. Pas toi, Juju.
Moi, j'ai vu la pièce il n'y a pas longtemps.
Ah ben voilà.
De Michalak. Je le conseille à tout le monde, c'est très bien.
C'est vrai. Très bien. Pour ce deuxième question, pour essayer de te connaître un petit peu, on va faire des petites questions qui s'appellent le petit questionnaire, le petit quiz tac au tac. Donc, tu réponds assez rapidement. Et on va commencer. Tu veux poser les questions, Juju ?
J'ai posé la première question.
Vas-y.
Je commence. Donc, Julien, tu es plutôt Évian ou Perrier ?
Évian.
Évian. Plutôt fromage ou dessert ?
Dessert.
Plutôt thé ou café ?
Café.
Frigo vide ou frigo plein ?
Plein.
Ah, plutôt donc, pâte au beurre ou gigot de 7 heures ?
Pâte au beurre.
Faut pas exagérer non plus.
Frigo plein, mais pâte
en fait,
au beurre.
Pas du tout.
Je suis plein de paradoxes.
Whisky coca ou ginto ?
Ginto.
Avec ou sans pourboire ?
Sans.
Caleçon, boxer ou slip français ?
Slip, boxer.
Ah, c'est ça, quand même
le
ça.
Le slip est venu naturellement.
Mais le slip français, et là, c'est tellement...
Je vais vous dire pourquoi j'ai pas dit slip français, parce que j'ai acheté un slip français et il s'est trouvé au bout de 6 mois. Voilà.
Okay.
Donc, du coup, mon amour d'amour avec le slip français, mon histoire d'amour avec le slip français
est terminée.
Est terminée.
Voilà. Tout à fait, ça a duré 6 mois quand même. Oui. Pas mal.
L'amour avec le slip français dure 6 mois. Voilà.
C'est ça. Après, il y a des trous.
Plutôt frites et bière ou vin et fromage?
Vin, fromage.
Ok, mon petit français, tu l'avais dit de toute façon. Un pur français. Vu à Bruxelles, mais t'es un pur français. Tu nous l'as dit au téléphone.
Oui.
Et du coup...
Et je pense, juste pour dire un truc, je pense que tous les gens qui vivent à l'étranger, ils deviennent un peu plus leur nationalité d'origine. Par exemple, à New York, les gens qui habitent, les Italiens qui ont migré là-bas, ils sont caricaturalement italiens. Et quand les Italiens d'Italie arrivent là-bas, ils sont étonnés. Moi, je suis devenu encore plus français en vivant à Bruxelles.
D'accord. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est assez vrai, on est hyper fiers.
Et donc, c'est quoi une caricature de français?
Le contraste avec les Belges est assez fort, puisque nous on est assez extravertis par rapport aux Belges. Les Belges sont beaucoup plus sympas, ils sont beaucoup plus simples. Nous, on est beaucoup plus raffinés, on se prend beaucoup plus la tête, on est sophistiqués, on se met beaucoup plus facilement en colère, ils sont beaucoup plus apaisés. C'est un très très bon... ils sont une très très bonne compagnie de manière générale, les Belges.
C'est clair, et moi, c'est pas un cliché. Moi aussi, je suis assez d'accord. J'ai un nom d'ailleurs qui sonne un peu belge. Je pense que j'ai des ancêtres là-bas. Non, mais j'en dis trop sur moi.
T'en
là.
Dis trop. Bravo. Attends. Ce qu'on veut savoir, c'est la vie de Julien.
Oui, c'est vrai. Je me fais reprendre par Juju.
Allez,
c'est parti. Attends, avant de commencer, avant de parler des histoires d'amour, on a juste besoin de savoir un peu ton modèle familial. Et ton adolescence?
Oui, alors j'ai eu une adolescence, un modèle familial très très classique, des parents aimants qui m'ont bien élevé, qui m'ont donné des bonnes manières, et ça c'est très important en séduction, les bonnes manières. Ce que je retiens un peu de mon enfance, mon adolescence, c'est à la fois l'émergence de mon caractère assez extraverti, enfin très extraverti déjà, je m'en vois encore aller déclarer ma flamme à des filles qui me plaisaient en cours, alors que c'était quand je dis ça à mes potes, ils tombaient des nues, parce que pour eux c'était pas possible de le faire. Moi c'était soit je le fais soit je crève, et je pouvais pas accepter de pas le faire. Et la deuxième chose que je retiens de cette période de ma vie, c'est beaucoup de déceptions amoureuses, beaucoup de chagrin d'amour lié à mon caractère beaucoup trop romantique, trop littéraire, avec mon imagination qui s'envole très très rapidement. Et je pense que j'en ai tiré la leçon que les femmes ne sont pas des héroïnes de romans. Voilà. Du coup, j'ai un peu corrigé ça au fur et à mesure. Je suis pas du tout cynique. Mais non, j'ai l'impression que je vois davantage les femmes telles qu'elles sont, plutôt que telles que on nous les présente dans les œuvres de fiction, dans les films, dans les romans. Je me suis assagi de ce point de vue-là.
Et comment t'as fait, toi? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de nanas qui pensent toujours au prince charmant et qui n'arrivent pas justement à revenir dans la réalité et se justement oublier un peu ces
deux choses.
Images.
Une relation longue qui n'a pas fonctionné, au sens que ça n'a pas abouti à la construction d'une famille, même si ça a fonctionné à un moment. Ça, c'est une première chose. Pourquoi? Parce qu'une relation, une relation longue, ça te fournit un miroir sur qui tu es. Moi, j'ai une relation longue de 6 ans et j'ai vraiment compris qui j'étais, de qui j'avais besoin, ce que j'attendais de l'autre, ce qu'il faut faire en couple, ce qu'il ne faut pas faire en couple. Et ça, il n'y a que l'expérience. Moi, je crois que dans l'expérience, je crois que dans ce que j'appelle la pratique éclairée, c'est-à-dire une pratique, un contact avec les femmes, mais tout en accompagné de lectures, d'écoutes, de tentatives de compréhension de ce que sont les femmes. Et la deuxième chose, c'est de beaucoup en voir, de faire beaucoup de dates.
La théorie du nombre.
Voilà. Je sais que les femmes sont un peu épuisées par les dates Tinder, etc. Je le comprends très bien, mais ça leur fournit un bon prisme pour juger de qui leur convient. Voilà. Après, je pense que si on devait, j'aime pas trop distribuer les bons points et les mauvais points, mais je pense beaucoup que la frustration des femmes, elle vient beaucoup du fait que les hommes ne leur parlent plus, leur parlent moins. Et donc du coup, le recours aux applications Tinder, etc., c'est bien, mais ça neutralise un moment fatidique, c'est le moment de l'approche. puisque tout se fait derrière des écrans. Et ça, je pense, ça manque beaucoup aux femmes, quoi.
Exactement. On te confirme.
T'aimes pas Tinder ?
J'ai eu Tinder pendant 15 jours après ma rupture, et ça m'a tellement énervé de créer des textos, je voyais pas le but, et je me suis dit bon, je vais y aller directement, c'est mille fois plus épanouissant. C'est beaucoup plus dur au début, mais c'est mille fois plus épanouissant. Genre, j'ai fait des rencontres exceptionnelles que j'aurais jamais eu via Tinder. C'est vrai qu'il y a un coût au départ, mais pour moi ça en vaut la peine.
Voilà. Tu veux dire l'effort, le coût, c'est l'effort que tu vas mettre, c'est justement tout ce que t'as.
C'est le fait d'aller aborder directement des femmes dans la rue et d'aller leur parler, de leur dire ce qui te vient à l'esprit. C'est très dur parce que ton ego est en jeu et c'est pas facile à tenir. Mais avec l'habitude, on commence à prendre ses distances avec ses pensées. Je parlerai plus tard que pour moi j'en reparlerai après. Mais pour moi, le pire ennemi de la séduction, c'est les pensées. J'en reparlerai après, mais c'est la peur, le doute, c'est la projection dans le passé, la projection dans le futur, c'est tout ça. Quand on est ancré dans le moment présent, on peut pas ne pas être séduisant. Les mots viennent à l'esprit, les mots justes arrivent au bon moment, et voilà, on est drôle, on est pertinent. Le problème, c'est que, et vous avez vécu ça mais des milliers de fois, c'est que quand un garçon fait face à une fille, il met son ego en jeu, il va se demander mais si elle me rejette. Il est dans la réactivité constamment. Donc du coup, il a des doutes. Du coup, il devient plus séduisant. Il n'arrive pas à exprimer qui elle est, qui il est. Mmh. Ses passions, ses ambitions, etc. Du coup, il devient terne.
Mmh. Ennuyant. Boring.
Il n'est pas dans le présent, t'es terne.
Next.
Non, mais ce que vous ne savez pas, et d'ailleurs, restez jusqu'à la fin de l'épisode, petit teasing, parce qu'on a vraiment face à nous le Casanova de Belgique ou de Paris. Il a plein de conseils à donner.
Ce qui est paradoxal, alors après, je ne sais pas si c'est paradoxal, c'est que tu t'es défini d'abord comme romantique. Donc aujourd'hui, tu ne me considères plus comme romantique.
Pas du tout. Et je pense que c'est parce que j'ai tellement souffert de mon romantisme exacerbé à l'adolescence que j'en ai tiré la leçon en étant cynique, mais en ayant un regard beaucoup plus cru sur ce que sont les femmes et sur les facteurs de séduction, d'attraction chez les femmes et que dans le passé, quoi.
Mais donc du coup, romantisme ou pas romantique, enfin romantique ou pas romantique quand même, parce que t'as quand même pris en exemple Cyrano de Bergerac.
C'est une très bonne question. J'ai un fond de romantisme que j'ai corrigé.
D'accord. C'est du romantisme corrigé. Non, voilà. C'est un beau concept.
Ouais.
C'est du romantisme tempéré. Voilà. Mais j'ai toujours un fond comme ça et je ne pourrais pas m'en empêcher.
Ok. Super. Petite transition sur.
Bon, on revient un peu à l'histoire d'amour des 6 ans quand même. C'est intéressant. On ne va peut-être pas épiloguer là-dessus, mais raconte-nous. Tu disais que c'est ce qui t'a un peu, c'est ce qui t'a appris, c'est ce qui t'a donné une lecture éclairée de ce qu'est l'amour. Donc, explique-nous un peu, ce qui s'est passé quoi pendant 6 ans?
Entre 23 et 29, c'est ça?
Exactement. Alors au début, comme toutes les relations, c'était plein de passion, plein de fougue, c'était génial. Et au fil des ans, la routine est intervenue. Moi, je suis devenu beaucoup plus passif dans le couple. C'était la source de disputes. Et alors c'est très difficile de délabyrinter un peu ce qui s'est passé. L'amour, c'est un cocktail très très complexe. Il y a pas juste deux ingrédients, il y en a 200 000. Mais je pense que c'est ça, voilà. Et je vis très mal cette espèce de trajectoire de la passion amoureuse à la routine. Apparemment elle est inévitable, on me dit enfin, en tout cas tout le monde me dit ça, mais je m'y fais très très mal. Je m'y fais très très mal. Et là, en l'espèce, j'ai pas su raviver la flamme et ça a été à la cause de la rupture. Mais paradoxalement, à côté de ça, on est resté, pendant toutes ces relations, c'était fusionnel, quoi. C'était ma meilleure amie, c'était ma confidente.
Et à quel moment elle est arrivée, cette routine? À quel moment tu la sens? Il y a quand même des pistes un peu qui t'ont mis sur.
La grosse erreur, c'était d'emménager ensemble.
Ah, la grosse erreur.
Ouais. Très tôt. Au bout d'un an. Pour moi, c'est trop tôt, un an. Et on a emménagé dans un appartement trop petit.
D'accord.
De 45 mètres carrés. Enfin, je sais qu'à Paris, c'est beaucoup, 45 mètres carrés.
Pourquoi?
Parce que
pour
ça crée une espèce de. L'intimité devient promiscuité. L'autre a plus son espace. Et on est deux caractères on était de caractères qui avions besoin de beaucoup, beaucoup d'indépendance. Pas d'indépendance sentimentale ou amoureuse ou sexuelle, mais d'indépendance pour vital. Être, pour vital, ouais. quoi. Et on n'a pas su respecter ça. J'ai pas su respecter ça, puisque c'est moi qui emménageais chez elle. Mmh. Voilà, ça, c'est
et c'est toi qui as l'initiative, c'est toi qui voulais habiter chez elle.
Ouais.
D'accord.
Ouais.
Pourquoi tu voulais habiter chez elle?
Je pense que j'avais besoin d'être avec elle, c'est tout, être en contact permanent. Mais à l'époque, j'avais pas d'expérience de couple, donc du coup, j'ai fait cette erreur-là. Je dis pas qu'il faut pas emménager, je dis juste que quand il faut emménager, il faut que c'est un peu comme le mariage ou les enfants, il faut que ça soit il faut pas que ça soit quelque chose pour corriger une situation, il faut que ça soit c'est une étape, c'est un défi, c'est un challenge qu'on se pose. Il faut pas le prendre comme une
Mais toi, tu voulais corriger quelque chose qui allait mal?
À cette époque-là, non. Mais ensuite, on a acheté l'appartement ensemble, enfin 5 ans après, enfin 4 ans après. Et là, c'était je pense une erreur.
Et la routine est arrivée avant l'achat de l'appartement?
Oui, mais ça intervient progressivement. Je sais pas, les prémices, c'était peut-être au bout d'un an et demi, un truc comme ça.
Et du coup, à quel moment tu t'es dit que c'était pas la femme de ta vie?
Quand elle a rompu avec moi.
Ah, parce que jusqu'au bout, tu y as cru.
Ouais. Et puis...
Mais tu t'ennuyais? Tu t'étais pas bien? On fait une introspection. Tu t'ennuyais, t'étais pas bien au bout de quoi? Deux, trois ans? C'est quoi, une histoire de 6 ans?
Je dirais pas que... Si je suis resté, c'est que j'étais globalement bien. Mm-hmm. Déjà, soyons clairs. C'est quand même génial de rentrer chez soi le soir, d'avoir quelqu'un qui vous attire physiquement, qui vous plaît, avec qui vous pouvez vous confier, c'est génial. Un meilleur ami peut pas en faire autant. Et on est un peu prisonnier de ses sentiments, de sa routine. Moi, j'ai une obsession, et c'est bien que vous en parlez, c'est que je veux pas faire de la peine. C'est un problème, je voulais pas lui faire de la peine. J'arrivais pas. J'ai rompu 2 fois avec elle, je crois. Et c'était dans des moments... Le deuxième moment, c'était quand mon père était en chimiothérapie. Il s'apprêtait à mourir. Et là, j'ai trouvé suffisamment de force pour lui dire que je voulais rompre. Mais finalement, elle est revenue. Mmh. Et j'ai pas eu le courage de lui dire non une deuxième fois. Je pouvais pas me dire que j'étais l'auteur de ses larmes. J'y arrivais pas. Maintenant, ça a un peu changé parce que j'ai compris que parfois, c'est nécessaire. Et dans ma deuxième rupture, c'est moi qui ai initié la rupture. Mais c'est plus dur de rompre que d'être rompu. Je trouve, hein, c'est mon avis.
Non, mais c'est hyper intéressant. Le seul truc que je trouve assez paradoxal, c'est quand tu dis que au final, tu t'as quand même décidé à 2 reprises de la quitter. Et quand même, t'es resté avec elle en disant que c'était quand même potentiellement la femme de ta vie.
Oui.
Tu t'es pas posé la question.
Oui, je me suis dit que c'était juste un moment, une passade, et que on se dit que dans les couples, il faut savoir faire des compromis. Enfin, il y a tout un en plus. Enfin, j'imagine que vous séparez le modèle de vos parents. C'est un modèle, voilà, de couples qui sont rencontrés jeunes, dans la vingtaine, et qui ont fondé une famille, qui sont encore ensemble peut-être pour la plupart. Donc du coup, on nourrit avec ce modèle familial, qui est mon modèle familial très stable. Donc du coup, on essaie de le reproduire. On essaie de reproduire ce qu'on a vu avant. Hein. Mais le problème, c'est que ça ne nous convient peut-être pas. Ouais. Voilà.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que moi, je trouve, c'est que souvent, on parle de lâcheté. Et pour nous, c'est, tu sais, il reste alors qu'il savait qu'il s'ennuyait ou que... Oui. Bon, en l'occurrence, là tu pensais que c'était toujours la femme de ta vie, mais... Et on se dit pas, on se met pas à votre place qu'en fait, enfin, je sais pas, on va peut-être redorer encore l'image de l'homme, mais là tu dis quand même que t'as peur de faire de la peine. Et souvent nous, on pense que c'est des lâches, et en fait ils ont peur juste de nous faire de la peine.
Je sais pas si on peut généraliser. En tout cas, moi, c'est ce que je ressentais. C'était ma première vraie histoire d'amour, ma première relation. Je connaissais tout d'elle, elle connaissait tout de moi. On était des livres ouverts l'un pour l'autre, et je pouvais pas me résigner à ça. J'y arrivais pas. Et au final, on a rompu parce qu'elle est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Et au final, c'était un mal pour un bien. Sur le moyen terme, ça m'a rendu.
Du coup, sur le moment où elle décide d'arrêter et elle te dit qu'elle a quelqu'un d'autre.
Oui.
Mais c'est
enfin, elle me dit qu'elle développe des sentiments pour quelqu'un d'autre et qu'elle sait pas quoi faire.
Mais c'est un mal pour un bien. C'est vrai que c'est paradoxal parce que c'est un mal pour un bien parce qu'à la limite, t'es soulagée et en même temps, c'était toujours dans ta tête la femme de ta vie. Donc, tu devais être complètement en même temps dévastée et mais soulagée.
Il y a deux moments. Il y a eu plusieurs jours, deux, trois semaines où j'étais vraiment une loque. Et ensuite, eh ben, j'ai pris conscience que, en fait, c'était presque une opportunité pour moi de sortir de cette relation, elle d'être heureuse avec quelqu'un d'autre, moi de retrouver mon célibat, d'être heureux avec quelqu'un d'autre. Et voilà.
Moi, j'ai envie de spoiler parce qu'on a un peu discuté avant cette conversation et tu me disais que pendant cette relation, tu avais une révélation en regardant une vidéo.
Tout à fait.
Alors, explique-nous cette révélation.
Alors, c'était peut-être un an avant la rupture, je ne me rappelle plus. J'ai vu la vidéo d'un garçon qui aborde une fille dans la rue. Et la fille lui parle. Et ils échangent et tout. Je ne sais plus ce qui se passe
elle
après.
Elle ne le rejette pas.
Elle ne le rejette
elle
pas.
Elle ne l'agresse pas.
Et pour moi, ça a été un choc. Parce qu'on m'a toujours dit, voilà, enfin, je n'ai jamais vu d'homme faire ça. Ou alors, pour moi, c'était des héros de roman, vous voyez. Et je me suis dit... alors, ça a mis du temps à émerger en moi. Je me suis dit que j'aimerais bien faire ça. Mais le problème, c'est que j'étais en relation, donc j'ai dit, OK, je vais mettre ça sous le boisseau, je vais faire le deuil de tout ça. Et voilà, tant pis. Mais du coup, quand on a rompu, je me suis dit, ben, je vais faire ça, parce que j'en ai vraiment envie. Ça me fait vraiment envie de le faire.
Et donc aujourd'hui, tu parles aux femmes dans la rue.
Oui. dans la rue, dans le supermarché, n'importe où.
C'est génial.
Explique-nous, donne-nous un exemple. Vas-y, j'ai envie de voir un peu cette scène.
Bah, typiquement, un homme et une femme se croisent dans la rue. Typiquement, je vais lui sourire, je vais faire demi-tour. Et alors, soit je la dépasse en restant devant elle, soit je vais me mettre devant elle, devant ses épaules. Si je vois qu'elle va un peu trop vite pour la stopper, parce que si je la stoppe pas, ça sera difficile de parler. Si elle marche tout doucement, si elle prend son temps, si elle flâne, on peut juste la déborder par le côté. Le plus important, c'est de rester devant elle.
D'accord.
Derrière elle.
Il y a une vraie stratégie de comment doubler. À la bonne allure.
Ouais. Bah, essaye. Tu peux pas essayer, mais un garçon qui aborde une femme de derrière en disant voilà, là, je te trouve ravissante, je sais pas quoi, ça aura pas du tout le même effet s'il est derrière ou s'il est devant elle. Genre, deux, trois pas, ça suffit. Psychologiquement.
Un ou deux mètres, hein. Allez.
Deux, trois pas.
Pour ceux qui voudraient essayer d'approcher une femme dans la rue.
Pas trop proche, mais pas trop loin non plus, et surtout pas de dos.
Avec une bonne haleine.
Non, mais c'est vrai, et après, tu lui dis quoi?
Alors, parfois, je sais pas quoi dire. Déjà, je l'observe. J'essaye de ressentir qu'est-ce qui me plaît chez elle. Alors, ça peut être, je sais pas, qu'elle a un bon style, que j'adore son manteau. Alors, vous, les femmes, vous êtes super parce que vous avez un goût vestimentaire qui échappe aux hommes. Vous savez associer des accessoires entre eux. Les hommes le voient pas. Bon, moi, je m'intéresse un tout petit peu à la mode. Je suis pas du tout un fashionista, mais je m'intéresse un tout petit peu à la mode. Du coup, j'ai un peu éduqué mon œil pour ça et j'arrive à voir assez bien, voilà, les accords de souliers avec les gants, etc. Donc, du coup, je parle de ça. Je trouve ça trop classe. Et puis, on parle et c'est naturel. Et après, quand c'est dans la vie de tous les jours, au Carrefour, par exemple, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a un contexte.
Ouais. Mais t'arrives à trouver une phrase d'accroche, quoi.
Ah, tu achètes une
Nesquik naturellement.
Et si j'ai un Nesquik.
Non, mais tu vas naturellement.
Si je sais pas quoi dire, je dis, j'aime pas le dire, mais c'est vraiment que si j'ai pas le choix, je dis que je t'aime.
Mais non.
Si, je te jure. C'est tellement gros qu'en fait, elle va comprendre que c'est ironique. Elle va comprendre que tu me plais, mais.
Ouais.
Mais c'est pas sincère, évidemment.
Mais tu t'es entraîné sur un grand nombre de femmes et t'as appris à un moment donné à justement bien les aborder et éviter qu'elles t'agressent ou qu'elles te disent non mais dégage, hein, gros lourdeau.
Je sais pas combien j'ai abordé de femmes, mais j'en ai beaucoup abordé.
Tu t'es entraîné.
J'ai peut-être deux ou trois mauvais souvenirs. C'est pas un entraînement, enfin,
c'est moins d'un pour cent, quoi.
Ah, mais clairement. Alors là, clairement.
Ah oui. Mais les mecs, venez nous aborder.
Il a eu deux, trois refus, ça veut dire qu'il a bien dragué 300 femmes dans la rue.
Ah, je pense plus. Mais c'est aussi, moi, je parle à tout le monde, hein. Là, j'étais au Starbucks avant. Je me suis tapé un kiff avec les vendeurs. comme je dis, je suis quelqu'un de très extraverti, j'aime bien créer du lien entre les gens. Et c'est un truc pour lequel j'ai une qualité, je suis assez fort pour ça. J'ai plein de défauts, mais je suis assez fort pour... J'aime bien que les gens soient ensemble, j'aime bien créer une harmonie entre les gens. Et sans la forcer, hein. Quand je vois quelqu'un que j'ai pas envie de lui parler, je veux pas lui parler, quoi.
Ouais.
Et du coup, oui, du coup, voilà, je fais ça constamment. Donc, parfois, je parle à des petites vieilles, je parle à mon épicier pakistanais, constamment.
Donc, c'est assez naturel.
C'est assez naturel. Alors, évidemment, quand je vais pas courir pour aller aborder un épicier pakistanais, mais tu vois ce que je veux dire.
C'est clair. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, c'est en regardant cette vidéo que tu as senti un truc et tu t'es dit ça, il y a quelque chose en moi et je suis fait pour aborder les femmes dans la rue. Je suis capable de le faire.
Ouais, alors ça me faisait pas peur parce que moi, j'ai une haute estime de moi-même et quand il y a quelque chose que j'arrive pas à faire, je peux me mettre en jeu ma santé pour y arriver. Ça, je suis assez opiniâtre, okay. En manière générale.
D'accord.
Et de manière générale, comme je vous disais au téléphone en préparant l'émission, que j'ai toujours aimé baigner dans cette énergie féminine. Je suis un littéraire pur. Dans mes classes, il y avait que des filles. Que ça soit en première, enfin au lycée, quand j'ai fait ma prépa, quand j'étais à l'université, j'ai fait de la littérature, etc. Il y avait que des filles et j'adorais leur contact. J'adore beaucoup plus le contact des femmes en général, sans qu'il y ait même de rapport de séduction, hein, pas du tout. Hein, c'est vraiment juste un contact avec les femmes, avec le sexe féminin. Soit ça, soit des hommes qui s'intéressent aux femmes et qui sont curieux, qui sont passionnés comme moi, mais je suis moins friand du contact direct avec les hommes lambda traditionnels, vous voyez, qui voilà, bière, foot, Formule 1, moi je m'en fous complètement. Et alors j'ai des amis, on fait des pokers et tout, c'est très très bien, mais ma nature s'exprime vraiment au contact soit des hommes qui s'intéressent aux femmes ou qui s'intéressent de manière générale à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Je me définirais plutôt comme ça, en fait. Et aux femmes.
D'accord. Donc toi, en gros, excuse-moi, mais t'es le mec, genre, quand ta meuf, elle vient avec ses copines, t'adores être au milieu de toutes ces femmes et qu'elles racontent leurs histoires, quoi.
Totalement.
Ah ouais, tu donnes des conseils aux copines et tout.
Je suis la petite souris, j'observe.
Je capte ce genre de mec.
je suis assez observateur parce que je suis assez humble. Et le problème, c'est que vous faites beaucoup de rétention d'informations quand il y a un mec autour. Donc, il faut savoir se faire un peu discret. Il faut savoir donner des gages.
C'est clair. Tu voulais enchaîner ? Tu avais une question ?
Non, mais j'ai bien aimé le côté j'ai envie de devenir la meilleure version de moi-même et ça implique forcément d'être plus proche des femmes.
Pour moi, oui.
D'accord.
Je pense que séduire des femmes de manière générale, c'est la chose la plus difficile pour un homme. Je le pense vraiment. Pourquoi ? Parce que ça remet beaucoup de choses en cause. Ça implique de gérer la notion de rejet. J'aime pas le mot de rejet ou d'échec.
C'est une question d'ego que tu abordais au début de l'émission.
Voilà, c'est comment détruire son ego ou comment, j'aime pas détruire son ego non plus, je devrais pas dire ça, comment le tenir en laisse, comment arriver à
le mettre en jeu, quoi.
Le prendre ses distances avec lui, parce que c'est un frein, ça nourrit des pensées de peur, de doute, de nostalgie, de tristesse, alors que si on apprend à vraiment être ancré dans le moment présent, il y a plus d'ego. L'ego n'existe pas dans le moment présent. On est juste tel qu'on est, sans ses pensées. Et voilà.
C'est intéressant. Comment tu fais pour être plus dans tes pensées ? Moi, je veux bien savoir.
Alors, ancré dans l'instant présent.
C'est la chose la plus difficile au monde. Alors, il y a plusieurs façons. La première chose, je fais assez attention à mon corps. C'est-à-dire, j'essaye vraiment de prendre conscience de mon corps. Je fais de la méditation. Je fais des massages. Je fais un massage chinois qui s'appelle le Twina. C'est une espèce d'acupuncture, mais avec les doigts... après une heure, j'ai le cerveau retourné. Mais je dors comme un bébé après. Et je sens vraiment que j'arrive beaucoup mieux à percevoir la finitude de mon corps, les limites de mon corps, à sentir mon cœur, mes poumons, etc. C'est bizarre à dire ça au micro, mais je vous assure que c'est possible. Et la troisième chose que je fais, c'est du sport. Je fais du sport. Mais le sport, c'est super bien. Il faut en faire... Bon, c'est un peu banal de dire ça, mais aussi la méditation, le massage.
Mais ce qui fait que quand tu arrives en date, tu arrives à contrôler ton corps, ton esprit, et tu n'as plus les pensées, tu n'arrives plus.
Je ne cherche pas à le contrôler du tout. J'essaye vraiment juste de m'ancrer dans le moment présent. Et je dis qu'il faut faire attention Il faut prendre conscience de son corps parce que notre corps est lui ancré dans le moment présent. Il peut pas être ailleurs. C'est notre esprit qui nous tiraille à droite, à gauche, dans le passé, dans le futur, etc. Et le tout, c'est comment utiliser le corps qui lui est ancré dans le présent pour ramener la pensée dans le présent et du coup combattre le peur, le doute.
La peur, ouais.
Typiquement, un garçon aborde une fille, la fille, elle va lever les yeux au ciel. Comme ça, genre j'en ai vu 150 comme toi avant. Première fois qu'un garçon reçoit ça, c'est pas facile quoi, c'est du rejet. Il faut, si tu écoutes tes pensées, tu vas te sentir rejeté, tu vas avoir peur, tu vas perdre tes moyens. Alors qu'au final...
Elle est en train de passer à côté d'un super mec quoi.
Exactement, il faut se dire ça. Et c'est toi qui rates l'opportunité. Après, c'est
moi
aussi
je me dis
un test.
Ça quand je me prends des vents. Bah, tant pis pour lui.
Ça c'est la bonne attitude, vraiment.
Non, mais je dis ça, mais c'est difficile. C'est compliqué.
C'est
quand
super
même.
Difficile.
Est-ce que ça. Toi, si t'es ancré dans le présent, ça nécessite que la personne qui est en face de toi le soit aussi un peu?
Pas tellement. Non, pas tellement. Je sais pas comment aborder cette question. Je pense que d'une manière générale, comme la dynamique du désir chez les... Alors, on va parler de femmes et hommes. Quand une femme parle à un homme. Ouais. Comme la dynamique du désir est tellement différente entre une femme et un homme voit une femme qui lui plaît, il peut coucher avec elle tout de suite. Une femme, c'est pas du tout pareil, bien entendu. Donc du coup, vous êtes beaucoup moins perturbé par ces idées de qu'est-ce qu'il va penser de moi, etc. Vous êtes plutôt dans un mode d'observation, un mode de... essayer de le scruter, de voir de quel bois il est fait, est-ce qu'il a confiance en lui, etc. Donc du coup, vous vous posez pas tellement de questions au final, vous avez pas tellement de peur. À moins que vous ayez un très gros crush, etc. Mais d'une manière générale, un garçon vient vous parler en soirée et vous allez vous dire s'il vous plaît de premier abord, il est pas mal, mais vous allez l'observer. Donc du coup, vous allez pas être tellement vous allez pas tellement être torturé par la peur ou le doute comme un garçon pourrait.
Parce qu'en fait, tu reçois la sollicitation. Imagine que t'es une fille et alors voilà, j'ai une question. Est-ce que tu prendrais bien une fille qui fait la même technique que toi, qui t'aborde dans la rue? Et tu penses qu'elle est dans quelle position, elle, quand
je me sentirais très mal.
Tu te sentirais mal?
Mais ça m'est déjà arrivé, mais ça me...
Genre, tu t'adores le faire, mais tu te sentirais mal?
Ouais, parce que je... Elle prendrait ma place.
Et oui.
Après, voilà, c'est...
Mais c'est flatteur, non?
C'est très flatteur.
Tu trouverais ça courageux, non? Parce que tu sais quelle force il faut avoir pour le faire.
Totalement.
Mais tu recevrais pas forcément le truc bien.
Alors déjà, je l'accueillerais presque à bras ouverts. Qu'elle me plaise ou qu'elle me plaise pas, je serais vraiment très gentil, très vraiment. Et les hommes qui le sont pas, je comprends même pas. Mais c'est pas mon domaine. C'est pas le scénario idéal. Mais après, c'est un scénario qui arrive tellement rarement.
Mais pourquoi? C'est pas le scénario idéal.
Qu'une fille stoppe un garçon dans la rue?
Oui.
Ça arrive pas souvent quand même.
Ah non, ça là, je ne dis pas, je sais pas, je n'ai pas les statistiques, mais dans la mesure où toi tu le fais et tu trouves ça bien et tu trouves ça agréable, pourquoi une femme ne pourrait pas ressentir la même chose?
Ah mais je dis pas que... Ah non, mais je trouve ça très très bien si elle le faisait. Mais je dis juste que moi...
Tu serais surpris.
Je serais surpris et je serais un petit peu...
Parce qu'elle te vole ton rôle ou parce que tu trouves pas ça bien?
Ah, parce qu'elle me vole mon rôle. Ah, je trouve ça excellent.
Tu veux pas qu'on prenne ta place dans la relation.
Après, c'est juste un petit moment.
Ouais, et évidemment,
voilà,
évidemment.
Là, on.
Ouais, c'est vrai.
On picore,
ouais,
quoi.
Ouais, ouais.
Non, mais c'est intéressant de. En fait, dans la première phase de relation. T'aimes bien jouer ton rôle, t'aimes bien avoir ton rôle.
Oui, déjà j'aime bien aborder et j'aime bien résister au premier mouvement de rejet. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Il y a un truc que j'aime bien faire, c'est j'aborde une fille et elle est manifestement pas intéressée mais je continue à parler. Je raconte ma vie littéralement et c'est un super exercice.
Côté majeur, en fait, t'aimes bien être rejeté d'abord. Et puis après, tu te bats. Et donc, après, quand ça marche, t'es encore plus content.
Je suis content parce que je sens que je suis en dehors de ma zone de confort. Ouais. Et du coup, je dois mobiliser d'autres sources et c'est là qu'on progresse. C'est quand on a mal qu'on progresse. Si tu vas à la muscu et que tu sors et que ton t-shirt il est sec, t'as pas progressé, t'as rien fait. Et c'est pareil avec les femmes. Il faut arriver à lutter contre nos pensées, contre nos peurs, contre nos doutes. Et quand ça m'est arrivé l'autre jour, hein, j'ai abordé une fille, je lui ai dit, je trouve qu'un nez mignon, il a une forme de toboggan. Elle avait un nez en trompette. Et elle a trouvé ça mignon. Mais après, bon, elle était avec tous ses potes. Elle est entourée de mecs d'ailleurs. Et elle m'a dit, voilà, on fait un jeu et tout. On s'est entendu, casse-toi, quoi. Je suis continué à parler un peu, pas longtemps, et je me suis barré. Après, je l'ai réabordé. Et cette fois, quand je suis arrivé vers elle, elle m'a tourné le dos. Elle a levé les yeux au ciel. Elle a rejoint sa pote. Moi, j'ai continué à parler à sa pote comme si de rien n'était. Je lui ai parlé de Michel Blanc, je me rappelle, parce qu'en ce moment, j'ai un kiff sur Michel Blanc. Et j'ai raconté un film que ma femme s'appelle Revient. J'ai raconté l'histoire du scénario. Et ça m'amusait, moi, en fait. Et donc, du coup, il y avait qu'elle qui me plaisait. Mais je sais que les deux autres filles qui étaient autour de moi, elles me regardaient comme ça. D'un air admiratif. Je l'ai vu. Ouais. Et pourquoi ? Parce qu'elles ont vu un homme qui n'était pas... désarçonné par une forte marque de rejet.
Ouais, carrément. Ouais. Tu voulais en me dire ?
Non, mais j'aime bien le parallèle avec le sport, en fait. J'ai l'impression, quand tu dis ça, qu'en fait, entre guillemets, aborder, draguer des filles, je sais pas comment on peut appeler ça, pour toi, c'est avant tout un sport, j'ai l'impression. C'est quoi la finalité ? Est-ce que c'est pratiquer l'exercice ou ce qui va derrière ?
Alors, la première raison pour laquelle je fais ça, c'est le sexe. Soyons clairs.
D'accord.
J'adore le sexe. Okay. Je trouve que c'est une expérience incroyable. Et j'ai réfléchi à ça l'autre jour. Je pense pas qu'il y ait d'autres activités au monde qui sollicitent autant les sens. Ça sollicite les cinq sens. C'est incroyable. Même la gastronomie fait pas ça. Hein. Le goût, oui. Le l'ouïe, le toucher, la vue et j'ai oublié le dernier et le
Louis, c'est et Louis quoi. On l'a dit non.
Il y en a quatre.
Le goût, le toucher, la vue.
Et le dernier, c'est quoi ?
Et l'odorat.
L'odorat,
exactement. Ouais. C'est incroyable. Mmh. Ça, c'est pas uniquement une expérience physique et sensorielle, c'est aussi une expérience spirituelle, le sexe. Mmh. C'est même cosmique dans certains cas où il y a de l'amour. Donc, je pense pas qu'il y ait de source de plus grand plaisir que le sexe de manière générale. La deuxième raison, c'est parce que j'aime beaucoup... l'entreprise de séduction. Je parle bien d'entreprise de séduction. Parce que c'est très difficile, c'est très délicat, et un seul mot peut tout faire échouer. Mais la récompense, c'est génial, quoi. Et la troisième raison pour laquelle j'aime autant ça, c'est parce qu'en fait, je me rends compte que tout ce que je fais avec les femmes, ça m'aide dans tous mes domaines. Dans mon domaine professionnel. Typiquement, pour mon entretien professionnel, pour mon boulot, c'était un boulot pour mon prédécesseur avait 45 ans, c'est un poste assez avancé, et j'ai abordé l'entretien comme si j'en avais rien à faire, en fait. Enfin, j'étais très bien préparé, mais j'avais aucune peur. Je me disais, mais au final, avec tout ce que je fais avec les femmes, et ben comment est-ce que trois membres de jury peuvent m'impressionner, quoi. C'est moi qui devrais être impressionné par moi, en fait. C'est un peu narcissique ce que je viens de dire, je suis désolé. Mais à force de sortir de sa zone de confort...
Tu prends confiance.
Exactement.
Carrément. Non, mais c'est une super. C'est vrai qu'il faut s'entraîner, on dit toujours, hein, il faut s'entraîner. Si tu écoutes les coachs en séduction qu'on a interviewés, c'est ça. Hein, c'est comment eux, ils ont réussi à être coachs aujourd'hui, c'est que de l'entraînement. Ils ne sont pas diplômés. Ils ont testé. Et à un moment donné, y a des choses qui marchent. Et puis aussi, tu as moins de complexes, tu as moins peur et tu as moins de doutes. Et c'est parti. Quoi.
La confiance en soi, c'est un muscle. C'est con à dire. C'est un muscle. Alors, il y a des gens qui ont eu la chance d'avoir. D'agrandir dans un foyer où la confiance en soi était très très stimulée, où l'enfant était encouragé à faire des choses par elle-même. Il y a d'autres, c'est pas le cas, mais rien, c'est jamais trop tard, quoi. Il faut juste avoir, et ça je pense que c'est commun à tous les séducteurs, il faut avoir un certain goût pour l'inconfort. Il faut rechercher l'inconfort. Et les douches froides, tout ce qui...
Le challenge, en fait.
Challenge constamment. Enfin, pas constamment, parce que...
C'est clair.
S'il y a eu, mais ouais. L'inconfort.
Si on reboucle un peu, donc tu, à 27 ans, tu vois cette vidéo, tu mets quand même, donc tu laisses de côté cette...
Je l'enterre.
Tu l'enterres, exactement.
Cette pratique sportive où tu te dis, un jour je vais y aller, un jour je ferai ça.
Non, je me le dis pas. Je me dis je l'enterre. Je me dis c'est dommage, mais j'ai ma relation et j'y tenais énormément. Donc.
Et donc tu termines ta relation, elle part. Là, tu rencontres quelqu'un d'autre à un moment, une année après.
Un an et demi après.
On va pas rentrer dans les détails parce qu'après on aura plus de temps. Mais ce qu'on voudrait savoir, c'est peut-être plus aussi. Depuis quand, du coup, là, tu es en kiff total de « je suis un Casanova, j'adore ça, je séduis ». Alors, est-ce que ça t'empêche pas de te mettre en couple, du coup?
Si.
T'as tellement pris goût à cette séduction et...
Si, mais depuis le début, en fait. Depuis ma première approche après ma rupture, je prends mon kiff absolu.
Après, t'as eu cette relation de 6 ans.
Oui.
T'as commencé à draguer à ce moment-là.
Oui, genre 2 mois après.
Ouais. Depuis, t'as jamais été à nouveau en couple?
Si, j'ai eu une relation pendant 2 fois 4 mois avec une... Elle était philippino-japonaise. D'accord. Et j'étais très, très amoureux. Mais là, c'est la distance qui a rendu.
Alors, 2 fois 4 mois, on dirait un CDD. C'est
ça, il a renouvelé son CDD avec la philippino-japonaise. Non, mais la question que j'ai... en fait, c'est ça qui est... Parce que donc, tu nous dis, en fait, c'est le goût de la séduction qui te fait faire tout ce que tu fais. T'adores ça, un peu comme un sport. La finalité... quasi immédiate, c'est le sexe, au final, c'est un peu la victoire. Qu'est-ce qui fait que, avec cette philippino-japonaise, tu t'es dit « Ah bah non, on va pas s'arrêter juste à ça, on va aller un tout petit peu plus loin. »
J'étais amoureux. Elle était parfaite, quoi, physiquement.
Oui, donc tu peux quand même tomber amoureux. En fait, il y a la phase « tombe amoureux ». C'est quoi ce moment où tu tombes amoureux? Ça veut dire quoi, tomber amoureux?
Quand j'ai plus envie de voir aucune autre fille qu'elle. Quand j'ai juste envie d'être exclusif avec elle, voilà.
Ouais, je crois qu'il n'y a pas de,
non, mais
pas
de
commentaire.
C'est une belle définition.
Ouais.
C'est beau.
Et d'ailleurs, je me rappelle que quand je suis devenu amoureux, je me suis dit « Oh merde
mais c'est je vais pas devoir enterrer à nouveau voilà. mon côté oh là là. Séducteur.
C'est ça.
Et tu le dis, ça, aux nanas que tu rencontres que
jamais. Et surtout, je me...
Il dit « Je t'aime », et puis après, c'est...
Non, mais tu dis pas que tu adores séduire comme ça enfin...
Elle le voit. Elle le voit, je veux dire, passe 2 heures avec moi, tu vas voir que j'aime bien plaire.
Tu sens pas d'ailleurs? On est un peu dans une phase de séduction.
Voilà, vous sentez pas vous, mais nous on le sent.
C'est chaud dans le studio.
Il y avait aussi une théorie dont tu nous as parlé, une théorie ou je sais pas comment on peut appeler ça, mais tu dis que tous les séducteurs, ils ont été frustrés à un moment dans leur vie.
Ou subi un traumatisme.
Je pense que il y a peu d'hommes qui font ce que je fais. Moi, j'en connais plusieurs à Bruxelles. À Paris, j'en connais quelques-uns aussi, mais il y a assez peu d'hommes. Moi, j'essayais de convertir mes amis à ça pour...
J'ai toujours parlé avec le sport parce que j'ai vraiment appris.
Juju, tu décris beaucoup ce que je fais de manière assez froide. Je parlerai après, je dirais que c'est pas, je le vois pas comme ça, en fait.
Oui, non,
Je me définis pas du tout comme un... Je me définis pas, en fait. Par la séduction, j'arrive à apprendre à être authentique. J'apprends à être naturel. C'est un concept qui est difficile à saisir, mais je deviens, au contact des femmes, j'apprends à me connaître mieux, à m'exprimer davantage, à m'exprimer beaucoup mieux. Et voilà, donc je le vois pas juste comme l'application de techniques, etc. Dans un premier temps, peut-être, les premiers mois, ok. Mais après, ce qui est intéressant, c'est de faire émerger sa personnalité et être real, être réel. Mmh. Ça, c'est un concept qui est vraiment central dans le... Alors, pas trop en Europe, mais aux États-Unis, les pick-up artists américains, ils parlent beaucoup de cette notion de réalité. Apprends à être réel avec les gens. Et moi, je vois pas ça du tout comme un abattage de meuf où je dois aborder chaque jour. Je vois peut-être au début, les premiers mois, je voyais ça comme ça, ok, la première année. Mais après, j'ai complètement changé mes lunettes sur ça. Et je le vois beaucoup plus comme comment est-ce que je peux m'exprimer au monde et pas qu'aux femmes. Et voilà, les techniques jouent un rôle, mais au final, c'est peu.
Oui, non, mais je te charrie pour l'espoir.
T'inquiète-moi. En fait,
au final, c'est un petit côté, c'est un peu comme une thérapie, une façon de... en fait, c'est parce que je suis très synthétique, j'adore en fait mettre des mots derrière...
Vas-y, moi aussi.
La façon dont je vois, de ce que je comprends, c'est un peu... Pardon, Nat, excuse-moi.
Je lui demande de parler devant le micro.
Oui, parce que je ne suis pas habituée. Non, mais oui, il y a un petit côté thérapeutique, c'est un parcours initiatique, une forme d'apprentissage de toi-même, quoi. C'est comme ça que tu vois les choses. Tu
oui, dis, c'est pas par... je ne fais pas ça pour les filles, je fais ça pour moi.
Ah, tu fais ça pour toi avant tout.
Vraiment, ouais. J'aurais dû commencer par ça, mais j'ai appris à me découvrir, à comprendre... certains pans de ma personnalité se sont révélés au contact des femmes, par exemple. Par exemple, je disais tout à l'heure de Cyrone Bergerac, mon amour de l'éloquence, elle s'est encore révélée, elle s'est encore accentuée de l'éloquence poétique, elle s'est révélée au contact des femmes. Et je me sens beaucoup plus éloquent après avoir fait ça qu'avant, ça c'est clair et net.
Super.
Bah écoute, c'est du coup, est-ce que tu as répondu à le fait de la théorie que tu dis que les séducteurs ont été frustrés?
J'ai pas répondu.
C'est vrai.
On a coupé, on a non, dévié.
Juju a coupé.
Pardon, je sais pas si je vais pouvoir vraiment remplacer Véro plusieurs fois. Je pense que je vais me faire virer après cette
épisode. Mais
non, c'est vraiment une intérim très très courte. Ok.
Je dirais que cette activité, elle est spéciale. C'est spécial quand même de trouver suffisamment de force en soi pour aller aborder. Moi, après ma rupture, je faisais 6 à 7 dates par semaine. Mais mes amis, ils comprenaient pas. Et je comprends qu'ils comprennent pas d'ailleurs. Maintenant, c'est beaucoup plus tempéré, mais c'est assez extrême. Donc du coup, je pense que il y a forcément quelque chose qui s'est passé à un moment ou à un autre dans leur vie où ils ont une nature qui est quand même très très spécifique. C'est pas tout le monde qui fait ça. Après, ce que disent les... Personne ne veut que enfin, je trouverais qu'un monde rempli de couches de séduction, ce serait un monde horrible. Ce serait vraiment infâme, quoi. Ou de séducteurs, ce serait horrible. Mais, enfin, imaginez, quoi. Des mecs qui courent dans la rue dans tous les sens. En soirée. Boum, 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 boum.
Trop de concurrence pour toi, en plus.
Oui, voilà. Donc, non, moi, il faut pas trop. Et, non, mais par contre, tous les efforts qu'ont fait les couches de séduction et les séducteurs peuvent être traduits en langage plus simple, en langage un peu vulgarisé pour l'ensemble des autres hommes. Et on en parlera après. Moi, j'ai quelques conseils clés qui vont vraiment... qui changent la perception que les femmes ont des hommes. Mmh. Donc oui, je pense qu'il y a eu un... Excuse-moi, je pense qu'il y a eu un... Alors, soit un traumatisme, en tout cas une nature qui est vraiment spéciale. Parce que pour faire ça... voilà, c'est comme quelqu'un qui est passionné de judo ou qui est passionné de quelque chose, quoi. C'est rare, quoi.
Mmh. Et, ouais. Et c'est deux, trois conseils?
Alors, je dirais que le premier conseil, c'est de maintenir le contact visuel. C'est un truc tout con, mais c'est tellement fréquent d'aborder une fille, de regarder par terre ou directement de même pas la regarder dans les yeux. Donc, maintenir le contact pendant, je sais pas, 3-4 secondes au moins, ça change tout. Et la deuxième chose, c'est la projection vocale. Parler du ventre et pas parler de la gorge. Ça, c'est des petites choses qui peuvent vraiment changer la perception que les femmes ont des hommes. Après, il y en a plein. Avoir une bonne hygiène, mais une haleine qui sent le printemps, mais ça, c'est la base.
Commence pas à te laver les dents. Et puis...
ça change toute la perception. Je veux dire, une fille qui me parle et qui sent pas très très bon de la bouche.
Des fois, elle s'en rend pas compte.
Mais mes problèmes, c'est qu'elle s'en rend pas compte. C'est ça le problème.
Alors que c'est quand même une expérience olfactive importante, quand même.
Bah oui.
La séduction.
Voilà. Et le conseil le plus important que je dirais, c'est que la séduction, c'est un combat contre les pensées. Et comment prendre ses distances avec ses pensées, notamment le peur et la peur et le doute, qui sont les deux obstacles à la séduction, c'est de prendre davantage conscience de son corps, le sport, la méditation, le massage, etc. Ça, c'est très bien. Quand on voit quelqu'un qui nous plaît ou quand on va en soirée, tout de suite aborder. De pas laisser les pensées envahir notre esprit. Moi, quand j'arrive en soirée, tout de suite, je parle, je sais pas, aux gens dans le métro, si ça se prête. Mais tout de suite, quand je rentre dans la soirée, je parle à la première personne qui est là, qu'elle me plaise ou pas, mais juste pour faire taire mes pensées. Et la troisième chose, la plus importante, je dirais, c'est d'aller lui parler, sans réfléchir. Mais juste de pas dire, ça c'est le petit caveat que je mets, de pas dire jolie, t'es jolie ou t'es belle. Voilà. Ça la met trop sur un piédestal et elle sait pas quoi faire, la fille sait pas quoi faire de
alors
de
que
ça.
Je t'aime.
Je t'aime, c'est tellement gros que voilà. Tu veux être ma femme?
Oui, à genoux.
Ça te fera marrer, tu vois.
Très
je suis sûr que ça te fera marrer.
Ah bah oui, ouais,
Très bon, la boucle est bouclée. Merci beaucoup, Juju.
Merci à vous.
Mais attends, c'est pas fini. On avait quelques questions avant de terminer quand même. Mais Juju a très bien bouclé en tout cas la fin de l'histoire en reprenant justement le je t'aime du début. Mais bravo, mais franchement, ça t'a fait ça toute ta vie, non?
Ah bah oui, j'ai été verrou toute ma vie.
Habile
la Juju. Et donc, on avait quelques questions. Vas-y, je t'en prie, Juju, les dernières questions
alors,
à poser en les petits plus.
On a les questions petits plus. Qu'est-ce que ton ex pouvait te reprocher?
J'ai un gros défaut, c'est que quand il y a une situation de dispute, je souris.
Ah oui, ça met les nerfs encore plus.
Mais c'est un mécanisme de défense et ça l'horripilait. Ce que je comprends, mais je pouvais pas m'en empêcher.
C'est pas mal. J'avais jamais entendu, c'est génial.
C'est pas mal.
Trop bien.
J'aime beaucoup cette réponse.
Et la deuxième, moi j'adore cette question. Quel tue-l'amour peut rendre la plus belle femme la plus moche?
L'alcool.
À qu'elle soit complètement arrachée.
Une fille séduisante bourrée, pour moi, elle est...
Elle a une mauvaise haleine, donc déjà.
Déjà, next. Non, mais elle se dégrade. Moi, je bois pas d'alcool. Je bois jamais d'alcool en soirée parce que justement, ça donne l'illusion ça désinhibe un peu, mais après, ça diminue complètement les facultés cognitives. On peut plus parler aux gens. On a des conversations débiles, très ralenties, etc. Et une fille qui boit, l'autre jour, j'étais dans un club et j'aborde une fille et sa copine, elle est tout de suite intervenue. Elle était visiblement bourrée. Je me suis complètement détourné de la conversation et je lui ai même donné ma main, comme ça d'ailleurs. J'ai fait ma diva.
Par la main.
J'avais envie de le faire ce jour-là. Mais ouais, j'avais envie de le faire. Parce que les filles le font. Donc, en fait, tu te rends compte, c'est un peu, si tu réfléchis bien, les séducteurs, ils imitent ce que font les filles aux garçons. Mais ils renversent leur rapport de force. Et alors, je trouve ça génial. Donc, du coup, là, j'avoue qu'en lui tendant ma paume comme ça demain, j'ai un peu fait ma diva. Du coup,
elle avait trop une me pécho derrière.
Ah, d'ailleurs, sa pote m'a regardé comme ça, mais avec les yeux écarquillés. Mais ouais, l'alcool, je trouve que c'est vraiment laid.
Si une fille repousse le premier baiser, est-ce que toi, du coup, tu lâches l'affaire?
Absolument pas.
Bah ça, le contraire aurait été déjà bon.
Je fais la différence entre insistance et persévérance. Je suis pas du tout insistant. / lourd. Insistance, c'est quelqu'un qui va répéter la même chose plusieurs fois. Mais par contre, je suis persévérant dans le temps. Donc, si je l'embrasse et qu'elle détourne ses lèvres, je vais quand même un peu insister parce qu'il y a, peut-être une pudeur, etc. Mais si elle veut vraiment pas que je l'embrasse, eh ben, du coup, je prends mes distances. Je la laisse vivre. Moi, je continue à vivre. Disons que je suis chez moi, je vais faire autre chose. J'aime bien faire mon linge parfois. J'aime bien faire des trucs ménagers. Et donc, du coup...
Vraiment, il est plein de paradoxes.
Ça la fait un peu sentir bizarre, tu vois. Ou alors, en tout cas, alors je prends ma distance, on reparle d'autre chose et voilà.
Ok.
Insistant, pas persévérant.
Ouais, c'est intéressant.
C'est pas mal.
Ouais. Et c'est tout? Il y en avait une dernière? Ou pas.
On se demandait si tu croyais à l'âme sœur.
Pas du tout.
Pas du tout.
Je pense que les êtres sont rares, mais ils sont pas uniques. Je pense qu'on peut avoir plusieurs âmes sœurs, grand amour dans la vie, mais unique, non, ça c'est une vue de l'esprit. J'en suis convaincu. Enfin, je parle pour moi en tout cas. Et je pense que c'est vicieux de croire ça, parce que du coup, quand on croit en avoir un, on est prêt à tous les sacrifices, après à toutes les compromissions pour la garder ou le garder. Et c'est pas bon, quoi.
Et pour autant, t'es quelqu'un de très fidèle, c'est ce que tu nous as dit.
Je suis extrêmement fidèle, oui. Parce que je suis un très mauvais menteur. C'est-à-dire que quand je mens, je rougis tout de suite. Et j'arrive pas à garder quelque chose de si... Enfin, je le sais, quoi. J'arriverai pas à garder une tromperie pour moi. C'est pas ma nature. J'ai des amis qui le font et je leur demande, mais comment t'arrives à faire ça? Ils me disent, bah, je compartimente dans mon cerveau. Bah, moi, j'arrive pas. Moi, mon cerveau, il doit faire qu'un seul. Il y a qu'un seul espace. Et je suis incapable. Parce que j'aimerais aussi, c'est une question d'empathie. J'ai beaucoup d'empathie et si je le fais, j'aimerais pas faire à quelqu'un ce que je voudrais pas qu'elle me fasse. Quoi.
C'est bien de finir là-dessus parce que je pense qu'après une heure d'interview, on pourrait se dire, tiens, le séducteur, il adore les femmes et tout. Et on n'avait pas abordé cette notion de fidélité. Et je trouve ça cool de finir là-dessus parce qu'on aurait pu dire à séducteur, ok, un homme à femme, homme qui trompe, homme qui se régale. Et en fait, on finit sur une jolie fin en disant séducteur, mais très fidèle.
Le séducteur exactement. Fidèle.
Ce sera le thème de ce podcast. Voilà, on va s'arrêter là parce que ça va faire une heure et à peu près. Merci Julien.
Merci à vous.
Merci Juju.
Merci Nat.
On espère que, en tout cas, vous avez aimé ce dernier épisode, ce 37e épisode. Oui, 37 déjà. Une grosse pensée pour Véro, bien évidemment.
Bisous Véro.
Et puis,
à très vite. On se fait sur bientôt. De toute façon, moi, je vais pas pouvoir faire la terrible très longtemps, je vais être virée.
Non.
Irremplaçable à Véro. Allez, à très vite. Salut, merci à tous.
Merci.